Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Alors ce soir, la parole, le thème que j'aimerais vous partager, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu vendredi dernier. Vendredi dernier, on avait vu un thème qui s'appelle « Triompher de l'incrédulité ». Et ce soir, le thème, c'est un peu dans la même pensée, mais on va l'aborder différemment, s'intitule « Implique Dieu dans tes batailles ». Invite Dieu, si tu préfères, dans tes batailles. Implique Dieu dans tes batailles. Regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui « Implique Dieu dans tes batailles ». 1 Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a un mauvais combat. Et pour inviter Dieu dans tes batailles, alors il faut d'abord que tu combattes le bon combat. Et ce bon combat, c'est le combat de la foi. Pourquoi est-il bon ce combat? Parce que celui qui combat dans la foi est assuré par Dieu d'être victorieux. Et assuré par Dieu d'être victorieux. Il faut la foi pour être victorieux. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Pour impliquer Dieu dans tes batailles, teste et éprouve-toi toi-même, comme dit les Écritures, pour voir si tu es dans la foi. Ça, c'est crucial. On a vu donc la semaine dernière qu'il fallait triompher de l'incrédulité pour que notre foi augmente. Ce qui nous fait défaut lorsqu'on manque de percée, c'est notre manque de foi. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, comment? En saisissant la vie éternelle. Comment saisir la vie éternelle? Ce qu'on va essayer de voir un peu ce soir. Comment faire pour combattre le bon combat? Et de quelle vie éternelle Dieu parle? Le combat de la foi, c'est bien sûr le combat de la confiance en Dieu. C'est le combat où on met notre confiance dans le Seigneur. Donc regarde ton voisin et dis-lui, implique Dieu dans tes batailles. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu dans la foi? C'est attentif. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible sans la foi de plaire à Dieu. Or, celui qui veut être agréable à Dieu, ben, il doit lui être agréable par la foi. Mais celui qui a la foi, il sait qu'il s'approche de Dieu parce qu'il croit que Dieu existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça signifie que Dieu est le récompenseur. Dieu est un récompenseur. Je ne sais pas si c'est français, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez? C'est un récompenseur. Il aime faire des récompenses. Et quand je préparais la célébration de ce soir en priant pour vous, je dis, Seigneur, mais plus que des récompenses, tu aimes faire des surprises. Dieu est un Dieu de surprises, car il est bon. Mais dans ce verset, on va juste ce soir tourner autour de ce verset, même si on va avoir d'autres, mais le verset principal, c'est Hébreux 11, 6, qui dit, « Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, premièrement, il faut croire que Dieu existe. Vous savez, le mot « existe » ici est traduit en français par le mot « existe ». Mais dans le grec, il faut croire que Dieu est. La véritable signification, c'est le mot « est », E-S-T, présent. Que Dieu est, qu'il est là. Le problème de l'Église, dans son ensemble, c'est qu'elle prêche souvent un Jésus qui était historique, dans l'histoire, sur des images. Et elle ne prêche pas un Jésus qui est, qui demeure, qui est là, qui se manifeste. Et il est important pour l'Église, c'est-à-dire nous et l'Église avec un grand E, de démontrer que Jésus est, qu'il est vivant encore aujourd'hui. On ne prêche pas un Jésus historique. Il est bien actuel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu. Ça signifie qu'il est le même. Ça signifie qu'il ne change pas. Le mot existe, c'est ça. Le mot existe signifie qu'il est constamment et il est. Ça parle de l'éternité. L'éternité est différente du temps. Le temps est comme une ligne droite avec le passé, le présent, le futur. L'éternité, ce n'est pas une ligne droite. L'éternité est au-dessus du temps. Pour l'éternité, c'est tout le temps le temps. De dire c'est maintenant. C'est-à-dire que celui qui croit que Dieu est, il croit que Dieu, c'est maintenant qu'il peut agir pour lui. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre le temps et l'éternité. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette haute réalité qui existe. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité qui est bien évidente. La bonne nouvelle de l'éternité. La bonne nouvelle d'une autre réalité qui s'appelle l'éternité. Qui n'a pas comme dimension dans le temps, passé, présent et futur. Dans l'éternité, c'est tout le temps le temps du moment présent. Vous ne croyez pas ? Je vais prendre quelques exemples. Des actes de foi qui amenaient l'éternité dans le présent. Un exemple simple, c'est la croix. La croix, c'est dans le temps humain passé il y a 2000 ans. Mais dans l'éternité, c'est pas passé. C'est présent. Par la puissance de la croix, on est capable d'être sauvé. Par la puissance de la croix et du sang de Jésus-Christ, il nous purifie encore aujourd'hui. Par la puissance de la croix, les démons tremblent. La Bible dit que nous prêchons Christ et Christ crucifié. Pourtant, c'est passé dans notre temps à nous. Mais dans l'éternité, non. Dans l'éternité, c'est toujours actuel. Dans l'éternité, c'est toujours pour notre bénéfice. Que ce soit il y a 2000 ans, 1000 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 3000 ans, sans ciel avant, c'est toujours actuel. Quand il dit « saisis la vie éternelle », il dit « Timothée, comprends bien, si tu veux combattre le combat de la foi, tu dois comprendre qu'il y a une autre dimension spirituelle, invisible, mais bien réelle, qui s'appelle le royaume de Dieu. Cette réalité-là, elle est éternelle. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Cette réalité-là, si tu veux combattre le combat de la foi, tu dois t'assurer et constamment, ça doit être une évidence en toi et dans ta tête que cette réalité est bien vivante et existe bien. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il est là, moment présent. Les actes de foi, un autre acte de foi extraordinaire de l'éternité qui nous donne une image. Dieu n'est pas comme nous. J'ai déjà pris cet exemple, mais je le reprends encore ce soir. On sait aussi que Jésus donc est mort il y a 2000 ans et qu'il est l'agneau immolé. Mais la Bible dit dans 1 Pierre 1,19, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est trop bon. Christ était prédestiné dans les temps éternels à venir comme un agneau avant la fondation du monde. Dans notre chronologie à nous, c'est à peu près il y a 2000 ans à peu près. Dans l'éternité, c'était avant la fondation du monde. Et c'est toujours actuel aujourd'hui. La raison bloque. Mais la foi ne raisonne pas. La foi se croit. Et il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ça signifie ce que ça signifie. Jérémy, tu peux aller voir, s'il te plaît, et calmer. Merci. La foi saisit la vie éternelle. La réalité d'une autre dimension. C'est extraordinaire de comprendre ça. Écoute bien, ça signifie que quand Dieu te regarde et me regarde, il ne nous voit pas le court temps qu'on est sur terre avec notre état de pécheur, quand nous on se s'apitoie, on se lamente sur nous-mêmes et notre vie. Dieu nous voit déjà à la lumière de l'éternité. Ça signifie qu'il nous voit déjà glorieux, majestueux. Il voit déjà notre humanité porter sa divinité. Il voit déjà notre humanité porter ses valeurs et son caractère. Et quand il nous regarde, il dit, oh, moi je ne te vois pas comme un pécheur. Avec la croix, je t'ai lavé. Non, je t'ai racheté. Il ne nous voit pas dans le temps. Saisir la vie éternelle, ça signifie que Dieu ne nous voit pas dans le temps. Nous, notre problème, c'est qu'on est figé dans le temps et on voit que dans le temps. Et du coup, on a du mal à combattre le combat de la foi parce qu'on est dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Le temps est en lui. Et quand il nous regarde à travers du temps. Il nous regarde à partir de l'éternité. Et pour combattre le bon combat de la foi, c'est une simple chose. Non pas uniquement à comprendre, mais à croire et à recevoir. La réalité de l'esprit est une réalité invisible, une réalité éternelle. Elle est invisible, mais elle existe. Tu vois pas l'air, je vois pas l'air, mais l'air rentre dans notre trou de nez. Pour faire plus poli, par nos narines. On respire l'air et il rentre par nos narines, mais on voit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas la réalité invisible qu'elle n'existe pas. Et quand Dieu nous regarde, quand il te regarde, il ne voit pas juste nous pendant cette petite période de temps. Il voit celui qu'il a préparé d'avance. Il voit celui avec qui il appelle, qu'il a préparé d'avance pour lui et elle. Il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Toi et moi, si tu es en Jésus-Christ, tu as été appelé à la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle peut commencer maintenant. Par la foi. Par la foi, écoutez bien ceci. Par la foi, les choses temporelles, certaines choses temporelles, sont devenues éternelles. Par la foi, le temps était stoppé à la croix. Et la croix a marqué l'éternité. Par la foi, le sang de l'agneau nous purifie toujours aujourd'hui. Et les démons tremblent. Ils détestent ça. Ils ont peur. Parce que Dieu existe. Il est. Il est présent. Il est éternel. Et c'est son cœur. Et pour traverser nos batailles, il est important de garder le bon combat de la foi. Et pour garder le bon combat de la foi, cette simple chose, cette simple pensée sur l'éternité qu'on est en train de partager ce soir doit être saisie. Comment ? Par la foi. Par chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 4,16 nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, le temps, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi ? Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Yes ! Les choses visibles sont passagères. Le problème, c'est que nos inquiétudes et nos problèmes d'aujourd'hui nous font uniquement focaliser sur le moment présent du temps dans lequel on est. Mais Dieu ne nous voit pas lorsqu'il nous regarde uniquement dans le temps dans lequel on est. Dieu nous voit à la lumière de l'éternité. Il te voit par rapport à l'appel qu'il t'a appelé. Et il attend que nous, toi et moi, on se réveille et qu'on comprenne cela. Et qu'à nouveau on se dit, ouais Seigneur, je comprends. Je combats le bon combat de la foi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne regarde pas aux choses visibles. Je regarde aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous comprenons que les difficultés, les afflictions qui nous affligent et produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pourquoi, et quand il y a une difficulté qui arrive, lorsqu'il y a un problème, lorsque un membre de ta famille est attaqué ou toi-même, lorsqu'il y a un souci, oh, ne regarde pas aux choses invisibles. Si tu veux combattre le bon combat de la foi, il faut transpercer le voile, il faut voir en dehors. Saisis la vie éternelle, l'apôtre Paul dit à Timothée. La vie éternelle n'est pas une vie sans fin. La vie éternelle, c'est de croire que Jésus existe. La vie éternelle, c'est de croire en le roi et en son royaume. Dans l'évangile de Jean, des pharisiens viennent voir Jésus et lui disent, mais c'est quoi la vie éternelle? Et Jésus répond, la vie éternelle, c'est que vous puissiez croire en moi et en celui qui m'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Croire en Jésus et en celui qui l'a envoyé. Croire, c'est la foi qui nous connecte dans la vie éternelle. Elle permet à la réalité éternelle de faire éruption dans le temps. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La foi n'est pas quelque chose de rationnel. Celui qui est trop rationnel est ralenti dans sa foi. Parce qu'il raisonne trop. Lorsque je parle de la vie éternelle, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Toi et moi, on ne comprend pas tout, mais c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qui se manifeste. Et nous le voyons par les fruits. Vous savez, la foi n'a pas besoin de voir dans le naturel, n'a pas besoin de sentir la véritable foi. Dans le naturel, je parle. La foi, elle nous connecte à la réalité spirituelle. Écoutez bien ceci, la foi nous donne le droit légal de rentrer dans le surnaturel. Elle nous donne le droit légal de rentrer dans le surnaturel, dans cette autre réalité. Et être surnaturel, ce n'est pas fonctionner de manière raisonnable. Le surnaturel est déraisonnable. Les gens ne raisonnent pas. Je discutais avec notre cher Bénédicte, Dominique, pour ceux qui connaissent, et les médecins, par exemple, ne comprennent pas son cas, leur tête chauffe. Parce que sur le papier, elle devrait être un légume, c'est ça ma chère sœur. Et elle fait des œuvres à couper le souffle en bénissant je ne sais pas combien de malades dans les hôpitaux. Et le médecin ne comprend pas, il essaie d'expliquer, il essaie de trouver une raison. Il essaie de trouver une raison et lui dit, mais peut-être que ce qui t'est arrivé, ce problème-là, ça vient d'un état dépressif. Et elle passe une vidéo où elle est à l'hôpital avec les malades et elle est en train de danser et tout ça. Et elle dit, vous pensez c'est ça être dépressif? Le surnaturel, c'est déraisonnable. Et la foi nous donne le droit légal d'entrer dans le surnaturel, dans l'éternité. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Vous savez, il y a plusieurs, je veux dire, pas de niveau, parce que la foi, c'est la foi, la foi comme une graine de sénévé capable de déplacer des montagnes. Donc, ce n'est pas forcément des niveaux de foi. J'appellerais plutôt ça des différentes sortes de foi. La foi qui provient de différentes manières. Et il y a la foi qui provient lorsque effectivement les gens, tu as beau leur prêcher la parole, ils ne croient pas, mais quand ils voient le miracle, quand ils voient les œuvres, ils commencent à croire. Et Jésus même disait dans Jean 14 verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus dit, écoutez, je suis Dieu, mais vous croyez pas, vous voyez pas, vous comprenez pas, c'est pas grave, vous voulez pas croire, mais dit, mais regardez ce que je fais. Personne ne ressuscite les morts avant moi. Je dis, regardez la puissance que je manifeste. Personne ne multiplie 5 pains pour 5000 personnes avant moi. Personne ne marche sur l'eau. Personne ne parle à la mer et la mer se calme. Personne ordonne au vent de partir. Jésus l'a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins ce que je fais. Il voulait réveiller la foi en disant, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Mais ce n'est pas la meilleure façon de croire. Ça, c'est comme Saint Thomas. Si je vois, je crois. Mais la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ensuite, il y a un autre type de foi, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La foi qui vient de la parole. La parole logos ou la parole rhéma. C'est la parole de Dieu que tu entends qui te donne la foi. Et ce que tu as entendu, hey, te fait agir pour Dieu. Te rend actif pour Dieu. Parce que tu sais que Dieu t'a dit, au travers de son livre, mais pas uniquement au travers de son livre. Son livre te permet d'avoir une oreille aiguisée pour développer ta capacité à écouter ce qu'il a à dire dans la réalité éternelle, dans le monde spirituel. Pour saisir ce qu'il a à dire. Une parole saisie dans la présence de Dieu, dans l'éternité, avec foi, est capable de changer n'importe quelle situation. Un troisième point, troisième type de foi, c'est la foi qui persévère. Après avoir entendu, parfois Dieu parle une fois. Et après, il ne te parle pas pendant des années. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hébreux 10, verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, 36. Là, il est en train de dire, pour faire la volonté de Dieu, il fallait entendre ce qu'il voulait. Mais une fois que tu as entendu que tu as fait, il te dit, c'est pas fini, persévère. Hébreux 6, 12 nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Le mot « et » signifie en réalité que vous imitiez ceux qui par la foi qui engendrent. Le mot « et » signifie qui alors produit la persévérance. Comprenez ? Comme cette veuve qui enquiquine le juge pour avoir gain de cause. Donc après, il y a une foi aussi qui persévère dans le temps. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais qu'on n'entend pas, comment on fait ? Il faut persévérer sur ce qu'on a entendu. Jusqu'à ce qu'on ait à l'écoute et qu'on entende à nouveau. Le quatrième, en tout cas, type de foi, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. En fin de compte, là, ta foi, ce n'est pas en quoi, ou qu'est-ce que tu entends, ta foi est en qui. C'est différent. C'est totalement différent. Les églises souvent se divisent parce que leur foi sont en quoi? Croyance, doctrine. Au lieu d'avoir une foi qui est en qui? Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. C'est pas pareil. Et on voit un exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1 au verset 9. Il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. L'apôtre Paul dit, de toute façon on a rien entendu. Là, la foi vient pas de ce qu'on entend, il n'a pas entendu. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était entouré de détresse. Sa seule solution, là, c'était quand tu n'entends pas, quand tu ne connais pas, mets ta confiance en lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et ça, c'est une foi inébranlable. Il dit, ben, comment ça, et puis qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne savait pas quoi faire. On n'a pas eu de consigne. On a mis notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts parce que pour nous, c'est une situation morte. C'est ce que l'apôtre Paul ici veut nous faire comprendre. Ne mets pas ta foi uniquement en quoi, que ta foi soit en qui. En qui tu crois. La religion dérive la foi de qui à quoi. De qui est Dieu à ses doctrines et ses croyances. Un système de croyances. Et je crois parce que je fais telle chose que je vais être sauvé. Je crois parce qu'il y a telle doctrine que je vais être sauvé. Mais ce genre de foi-là est fragile. Si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle est carrément vaine. Mais la foi en qui? En Dieu. Ça fait toute la différence. Amen. Ensuite, le verset de Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, qu'il est. Dans la vie éternelle. Il est présent, l'éternité est là. Mais pas uniquement ça, deuxième grandeur, c'est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il récompense. Regarde ton voisin et dis, Dieu veut te récompenser. Ah bon? Dieu veut récompenser et il attend des actes de foi parce qu'il aime faire plaisir. Vous savez, je vais vous dire une chose qui pour moi est réellement bombe dans le sens où il est écrit ceci. Il n'y a rien qui ne récompense plus que de chercher Dieu. Dans ta vie, fais un test. Il n'y a rien qui ne te récompensera plus que de chercher Dieu. Je vais redire parce que ça me fait du bien à moi-même. Il n'y a rien qui ne te récompensera plus que de chercher Dieu. Ça signifie que celui qui doit s'approcher de Dieu, non seulement il comprend la dimension éternelle et cette réalité palpable qui est là, et il cherche à ce que sa foi soit activée pour que cette réalité se manifeste, mais pas uniquement ça, il sait que Dieu récompense, c'est-à-dire qu'il est dans l'expectative, il est dans l'attente que quelque chose se passe. Il sait que Dieu va agir, il sait que Dieu récompense. Ça signifie qu'il prie avec foi. Pas avec espérance, on va voir ça dans un instant. Avec foi. Il s'attend à ce que quelque chose va se produire. Il s'attend à ce que Dieu va étendre sa main pour agir. Parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Un autre verset pour expliquer celui-ci, pour illustrer celui-là, c'est Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qui ne se voient pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qui ne se voient pas. Tout le monde dit la foi est. La foi est. Très important. Pas la foi était. La foi est, moment présent. Une ferme assurance. Quand Dieu dit la foi est, ça veut dire que c'est maintenant, c'est là. C'est bon, la réalité spirituelle est là, sa présence est là, c'est là, il y a quelque chose pour toi, là, maintenant, pas demain. Aujourd'hui. Et ça, c'est bon. La foi est une ferme assurance. Le mot assurance, c'est le mot grec hypostasie, qui signifie en réalité placer au-dessous un fondement, ou sinon plutôt placer au-dessous d'une autorité. Soumis à une autorité. Ça signifie ça. Le mot assurance signifie hey, je suis tellement placé sous une autorité sûre que je suis inébranlable. Vous savez, à l'époque, ce mot hypostasis, lorsque la Bible était écrite, c'était un mot pour les documents légaux, la profession, les professions de juriste, etc. Lorsque vous achetez un terrain, vous avez un acte, etc. Ce mot hypostasis était écrit un peu comme faire valoir ce que de droit. Nous, on dit ça aujourd'hui. À l'époque, c'était écrit hypostasis. C'est-à-dire, c'est scellé, c'est comme ça. L'acte a été fait. C'est très, 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 très important de comprendre ce mot. La foi est une ferme assurance. Assurance, mot hypostasie, qui signifie la foi est placée en dessous d'une autorité légale. Pourquoi c'est important? Je prends l'exemple de ce que ce mot signifiait à l'époque pour les terrains. Si aujourd'hui, tu veux acheter un terrain, et que tu passes avec ton épouse, vous voyez un terrain en friche et tu te dis waouh, ouais, ben ce serait bien d'acheter ce terrain. Vous allez voir le propriétaire, effectivement, vous discutez avec et il y a un deal qui commence à se faire, ça peut être intéressant. Et puis bon, tu viens chez ta famille le soir, tu racontes un petit peu ce qui s'est passé et tu dis bah aujourd'hui voilà, on avait pour projet d'acheter un terrain et on est passé devant un terrain, on a rencontré le propriétaire et on a trouvé un terrain à tel endroit, c'est super sympa, il coûte tant, donc on aimerait bien l'avoir. Demain on va à la banque. Vous allez à la banque. La banque vous dit, bah, écoutez, il y a les papiers aussi à faire, mais négociez peut-être encore le prix parce qu'on ne peut pas vous donner tel prix, il faut tel prix. Vous allez revoir le propriétaire, vous négociez les prix et c'est peut-être faisable. Il vous dit, écoutez, je mets ça en réserve pour vous, mais s'il y a d'autres preneurs, on va donner au plus offrant. Et là, tu veux avoir ta famille et tu dis, bah, écoute, ce terrain-là, alors où il en est? Tu vas dire, écoute, j'espère qu'on pourra l'avoir. Tu vas dire, j'espère qu'on pourra l'avoir parce qu'il faut qu'on fasse des démarches, il faut qu'on fasse la demande de prêt. Et j'espère, en tout cas, on prie pour ça et on prie avec espérance. La foi, c'est prier avec assurance. L'assurance des choses qu'on espère, c'est pas pareil. Ça signifie que la foi, le mot hypostasie, c'est quand tu as cette fois-ci signé les papiers comme quoi le terrain t'est vendu devant un notaire. comme quoi tu as signé les papiers, comme quoi le prêt est débloqué, qu'il n'y a rien qui te gêne. Cette fois-ci, quand tu es dans ton repas de famille et qu'il te dit « Alors ce terrain, tu dis « Il est à nous. On l'a acheté. La maison est à nous, pourtant elle n'est pas encore dessus. » Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi ? Parce que tu as les sous. Il y a eu un acte notarié. Tu es protégé en dessous de l'autorité légale. Et donc maintenant, tu ne pries pas avec espérance. Quand tu dis pas j'espère. Tu dis la maison va être construite. Elle n'est pas encore construite. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une assurance. Hypostasie. C'est une assurance des choses qu'on espère. C'est en dessous de l'autorité. C'est placé, c'est décrété. Bon, ça va arriver. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est un document légal, l'acte légal qui nous donne l'assurance. Elle est une démonstration des choses qui ne se voient pas. Le mot démonstration, c'est le mot grec ellegos, qui signifie une preuve convaincante. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu as ça, c'est une preuve convaincante. Hey, tu sais que tu vas construire ta maison, acheter le terrain, tu as le budget pour le terrain à la maison, l'acte notarié est signé. Mais il n'y a rien, le terrain encore en friche, il n'y a rien de changé dans le terrain. Rien. Mais tu as la foi parce qu'il y a eu un acte de fait. Et donc, tu as une ferme assurance des choses que tu espères construire ta maison. Ce mot était utilisé pour ça à l'époque. Et le mot ellegos signifie quand tu as l'acte, c'est une preuve convaincante. C'est une évidence, ça devient évident. C'est là aussi utilisé pour les juristes de l'époque. Quand tu arrives devant le juge, tu montes ton acte, s'il y a un litige de terrain, tu montes ton acte, tu dis c'est ma partie, c'est à moi. Et la preuve est tellement convaincante que on te donne gain de cause. Tu dis c'est vrai, vous avez raison. C'est le juge tranche et dit ok. Une preuve convaincante, la foi. Et pourquoi il nous faut la foi? Parce que l'ennemi est l'accusateur des frères. L'ennemi va devant Dieu qui est le juste juge. Et Dieu le permet dans cette époque où on vit, dans ce temps-là de l'humanité, d'utiliser les hommes pour étendre son règne de destruction. Et les hommes s'accusent tour à tour. Et la Bible dit que l'ennemi est appelé aussi l'accusateur des frères. Donc Dieu, dans sa justice, il est tellement juste, et nous, ça nous chiffonne la tête, que Dieu permet même à Satan d'avoir un droit légal de plaider sa cause. Mais quand quelqu'un arrive avec la foi, quand il arrive avec la foi, la ferme assurance, l'acte légal, que c'est bien son droit d'être guéri, que c'est bien son droit d'être restauré, que c'est bien son droit d'être fortifié, que c'est bien son droit d'être libéré, et que cette foi vient de ce qu'il a entendu du décret légal, et qu'il comprend que ce décret lui a été donné par grâce, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, par la puissance du sang de l'agneau, parce que Jésus-Christ a payé le prix, parce que Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Satan est nu, il accuse mais il est nu, Jésus l'a dépouillé. Et quand cette fois-ci la Bible dit que Christ est notre avocat auprès du Père, et quand par la foi on vient, et la foi manifeste cet acte en disant c'est mon droit, Dieu, je sais que tu existes, mais aussi que tu récompenses ceux qui te cherchent. Et à ce moment-là, l'ennemi n'a plus rien à faire. La preuve devient évidente. C'est une démonstration de l'éternité, de la réalité d'en haut. Et le combat de la foi, elle n'est même plus un combat. Quand la foi est exposée, qu'elle explose, le royaume des ténèbres est détruit. Par la grâce de Dieu. Autrement dit, on pourrait dire ceci pour Hébreux 11.1. La foi est le document légal qui nous prouve que nous possédons déjà les choses qu'on espère. Dit autrement. Ça, c'est la foi. C'est bon, ça. Et c'est notre droit. Jésus a payé le prix. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que tu existes, qu'il est. La vie éternelle se manifeste dans sa présence. Il est là. Mais aussi qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense ceux qui le cherchent. Le mot cherche signifie chercher avec persévérance, chercher avec diligence, qu'il n'arrête pas de chercher, qu'il persévère, qu'il n'abandonne pas, qu'il continue et qu'il arrive en disant c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Pourquoi c'est ton droit? Parce que tu es bon? Non, parce que Jésus est bon. Pourquoi c'est ton droit? Parce que tu fais de bonnes œuvres? Non, à cause de son œuvre. Pourquoi c'est ton droit? Parce que tu es juste? Non, parce que le juste est justifié par la foi. Il nous rend juste, il est notre justice. Et ça, c'est le bon combat de la foi qui nous fait saisir la vie éternelle et qui nous fait hériter des récompenses. C'est ce que Dieu veut. Mais pour savoir que Dieu récompense, il faut aussi réaliser et croire que Dieu est bon. Tu n'auras pas envie d'aller demander à quelqu'un de mauvais de te donner quelque chose de bon. Et donc si on voit Dieu comme un papa qui fouette et qui corrige, et si on a une maladie ou la mérité ou sème ce cours école, ben il pourra ou bien fait. Et bien comment tu veux avoir la foi après pour dire guéris-moi Seigneur? C'est pas logique. Là c'est même rationnel. Le bon sens fait non, c'est comme si tu dis mi porte ma croix, mi souffre, c'est Dieu veut ça, c'est sa volonté, mi souffre. Et puis tu vas au docteur pour enlever la souffrance. Ben souffre. C'est parce que Dieu veut, il est bon. Pour qu'il nous récompense, il faut croire qu'il est bon. Qu'il est bon envers toi. Peu importe ta nature. Peu importe ce que tu as fait, ta nature pécheresse, je veux dire. Peu importe. Il est bon. Et sa bonté dure en tout temps. C'est pour ça qu'il faut croire en sa bonté. Que tu t'approches de lui. Tout ce qui t'est arrivé dans le passé quand tu ne le connaissais pas. Tous les déboires qui arrivent. Toutes les afflictions qui arrivent. Ce n'est pas sa faute. C'est le péché même qui est destructeur. Le péché réclame la mort. Et Satan s'en réjouit. Car il est l'auteur du péché. Et il nous accuse lorsqu'on pêche en disant ben, tu vois Seigneur. Mais celui qui a la foi dit oh Seigneur pardon. Pardon Jésus, j'accepte ton pardon. Je me pardonne aussi à moi-même. Je t'aime. Je prends ce que tu me donnes. Et je prends avec foi. Et quand il entend, il reçoit l'acte légal. Et dit, maintenant, c'est à moi. Et dit à l'ennemi, tire tes sales pattes de ce qui me possède. De ce que je possède. J'aimerais juste terminer. On pourrait encore dire plein de choses, mais pas être long. J'aimerais juste terminer sur pour que la foi et que la bonté de Dieu ne soit pas voilée devant tes yeux. Pour que la bonté de Dieu soit toujours brillante, éclatante. Quand il t'arrive ou il m'arrive des déboires, comme par exemple, mon frère cette semaine, on peut se poser plein de questions. Pourquoi Seigneur ceci, cela, lui, son âge, etc. Pour te servir. Perte de temps. Mais que tu sais qu'il est bon et que tu combats le bon combat de la foi, et que tu saisis la vie éternelle, et que tu sais que cette vie éternelle c'est une autre réalité, que cette vie éternelle c'est de croire en Jésus-Christ le Sauveur, que tu sais ça et que tu t'approches de lui parce qu'il est bon, alors ta vue sur sa bonté reste efficace, claire. Mais si l'offense ou les situations difficiles laissent un goût amer dans ton cœur, c'est pas bon. Je vais juste faire une parenthèse et terminer sur cette parenthèse sur l'amertume. L'amertume piège trop de chrétiens. L'amertume, c'est encore un petit peu différent du non-pardon. L'amertume, c'est j'ai pardonné, mais il y a un petit goût amer. Tu parles de la personne, tu as pardonné, tu aimes, mais il y a un petit goût amer qui est là. Attention à l'amertume. Hébreux 12, verset 15 nous dit ceci. veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et c'est notre cœur pour vous ce soir. Pasteur Bruno qui va là, mais c'est son cœur aussi. À ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pas par tes efforts, c'est pas par ta propre bonté. C'est par sa bonté. C'est par sa grâce. Est-ce que tu crois? C'est tout. Est-ce que tu crois qu'il existe et qu'il veut récompenser ta foi? C'est tout. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume. Je me rends compte que beaucoup de choses dans notre passé ont laissé un goût amer. On pardonne, mais la Bible dit veille à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment être privé de la grâce de Dieu, de sa bonté? Comment? Lorsqu'il y a la racine d'amertume. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est amer, on commence à plus voir qu'il est bon. Et si on ne voit pas qu'il est bon, on n'aura pas la foi pour savoir qu'il va nous récompenser. Et si on n'a pas la foi pour savoir qu'il nous récompense, on n'aura pas la persévérance pour toujours demander. Et notre foi sera fragile. Donc attention à l'amertume. C'est vraiment différent du non-pardon. C'est une chose un peu amère qui reste dans l'âme et qui nous prive de la grâce de Dieu. Qui voit notre perception sur la bonté de Dieu. Si je prenais l'exemple de mon frère ou même de ma maman lorsque j'étais en Afrique du Sud et qui est parti rejoindre le Seigneur, j'aurais pu rester, ça avait une petite trace d'amertume. Mais non, il fallait que je deal avec ça rapidement. Parce que le combat, c'est le combat de la foi. Il faut saisir la vie éternelle. Cette réalité que tu ne vois pas, mais qui existe, car Dieu est. Jésus est vivant. C'est ça le bon combat. Impliquer Dieu dans tes batailles.